France Culture.
Christian Bobin, avec Alain Weinstein, 2005.
Le Creusot, cette ville, est donc au centre de prisonniers au berceau. Pour le Creusot, Christian Bobin, vous n'avez pris qu'un aller simple. Je disais tout à l'heure que vous y étiez né. Vous y vivez encore aujourd'hui. Vous auriez pu partir.
Ben, non. J'étais très bien là-bas. Moi, si vous voulez, moi, je suis né, on m'a mis sur une chaise. J'ai trouvé que la chaise était à ma taille. Et la chaise, elle a grandi avec moi. Une petite chaise de paille dans un coin. Et moi, ça me suffit. Moi, je suis sur... Oui, c'est ça, la chaise, elle a grandi avec moi. Et puis, moi, je suis assis dessus et je regarde le ciel qui passe par la fenêtre. Ça me remplit tout mon temps.
N'allez pas me dire que vous ne vous êtes pas terriblement ennuyé au Creusot. Vous êtes ennuyé, vous ennuyez encore.
Vous avez la voix d'un ogre un peu. Dans les contes.
Non, dites-moi la vérité. Ne riez pas.
Dis-moi la vérité, petit chaperon rouge.
Regardez-moi bien dans les yeux.
Petit poussé.
Ennuyé au
Creusot. Je me suis ennuyé, mais pas terriblement. C'est pour ça que je marquais un arrêt sur ce mot. Parce que j'ai connu la merveille qui est au fond de l'ennui. Et je la connais toujours, la merveille qui est au fond de l'ennui. C'est-à-dire, j'ai connu un arrêt du temps et des horloges. Plus aucune aiguille n'avançait, plus aucun nuage ne glissait sur la vitre du ciel, plus rien ne bougeait, personne n'arrivait. Et moi-même, j'étais mis dans un état de stupeur tel que j'étais entièrement, intimement, intérieurement prédisposé au prochain miracle. Et les miracles sont arrivés juste après. L'ennui, ça rince le cœur, si vous voulez. J'en dirai jamais de mal, jamais de mal.
Christian Bobin, L'enfance au cœur, 1951-2022. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
C'est un chef-d'œuvre, son rire. Son rire pourrait être classé. Il y a plusieurs temps, il y a une sorte de respiration, et puis tout à coup ça éclate, et puis ça. Puis il y a une nouvelle salve, etc. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Lydie Dattaz Bobin.
Ce détachement, cette joie, une intelligence comme ça qui rebondit. Des salves de canon. C'était comme ça.
Il y a un film qui s'appelle Le Tambour, qui était une adaptation du roman de Günter Grass.
Yves Leclerc.
Et c'est très significatif de l'image que je me fais un peu de l'œuvre et de la personne qu'était Christian Bobin. L'image d'un homme enfant, et cet enfant crie et brise tout par son rire. Le rire était une chose extrêmement fréquente chez Christian Bobin. Il y avait le sourire, parce qu'il revendique la bonté, ce qui est très audacieux et très courageux dans le monde du cynisme dans lequel nous vivons. Eh bien, on voit que lui, il a choisi quand même garder cette espèce de candeur. Et cette candeur, on la retrouve donc chez cet enfant dont le rire brise tout. Bobin, quand il riait, parfois il avait de ses rires, mais c'était ravageur. C'était un rire qui partait comme ça. C'était une manière de décoller et de balancer la table, quoi.
Il y a une joie à perdre. Il y a une joie à perdre ce qu'on est. Il y a une joie à donner, à écrire. Parce que dans ce sens-là, c'est perdre, écrire. Vous sortez une chose de vous, et puis elle vous échappe définitivement. Vous n'en avez plus la maîtrise. Il y a une grande joie à ça. Quand je réfléchis sur cette joie, après coup, j'ai l'impression que ce qui se sera perdu de moi dans la vie ne se perdra jamais. C'est une jubilation. De rire, parce que dans le rire aussi, il y a une perte. Il y a une perte du sens, peut-être. Il y a une perte, tout d'un coup, il y a un effondrement du sérieux de toute chose. Tout ce que je perds, eh ben je sais que la mort n'a pas de prise là-dessus. Et ces choses-là, me semble-t-il, sont de la vie, elles sont dans la vie, mais comme une vie qui aurait déjà avalé sa propre mort, qui l'aurait déjà mangée. Alors c'est au-delà, c'est au-delà. Donc c'est pour tout le temps.
Blanches années où tu ne savais pas encore lire, à peine marcher. Leur lumière me revient par le vitrail d'un silence. Elle instruit ton procès. Elle convoque l'enfant mis en pénitence dans un coin du ciel. Ce que tu cherches en vain, remue les cendres du livre avec une baguette de coudrier. Il l'avait depuis toujours trouvé, le petit sauvage.
C'est un petit révolté qui naît.
Gilles Gontier.
En fait, un enfant qui n'est pas d'accord. Il ne veut pas de ce qu'on lui fait vivre. Il a été assez couvé, très protégé par sa mère. Elle a fait une forteresse de sa maison, interdit de sortir, dehors c'est pas bon, dedans c'est bon. Interdiction de jouer dans la rue. Il fallait qu'il joue toujours soit avec ses frères et sœurs, dans la petite courette de la maison. Donc c'était son univers, c'était cette cour, ce qui s'y passait. Il y avait les nuages, il y avait la tête de l'hortensia bleue, des papillons ou des fissures du mur. Il va enfant s'accrocher à des choses comme ça. Mais il sera seul avec ces choses-là. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas partageables encore, pas à ce niveau-là.
J'ai toujours eu du mal à aller dans le monde. Celui-ci commençait dès le franchissement du seuil de la maison familiale. Je faisais un pas dehors et j'étais déjà à l'étranger. Ce mal a fait que je suis restée plus de 50 ans dans la même ville, à quelques dizaines de mètres de la maternité où je suis née. Il arrive qu'une infirmité est une grâce pour Anvers. De ne jamais quitter une ville que son ancienne fortune avait ruinée m'a fait connaître la persuasive douceur des jours sans gloire.
L'épisode de l'école a été terrible. Il a hurlé, hurlé tous les matins et sans arrêt pendant 3 semaines. A protesté, il ne voulait pas aller dans... Il a vécu ça vraiment comme l'abattoir. L'école maternelle, c'était un endroit où on tuait les enfants. Et il voyait les autres enfants comme des fous, violents, se bousculant, et il ne comprenait absolument pas ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il est passé de la petite cour avec l'hortensia bleue directement aux petits gars qui se courent après en hurlant et qui font mine de s'étrangler, ça a dû complètement le paniquer. Il a appris à voir les choses arriver et à s'en garder. Et dans une interview, il fait appel à Thérèse Davila, qui avait cette phrase qu'elle disait à ses postulantes, « Si vous n'avalez pas votre mort d'un seul coup, vous n'arriverez à rien. » Et lui, il dit, « Voilà, à cet âge-là, à la maternelle, j'ai avalé ma mort. » Tout d'un coup, les cris se sont arrêtés et j'ai pu vivre de petits riens. Donc il s'est mis à chercher des choses dans la cour de l'école que les autres ne voyaient pas.
Ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est que tout se préparait. C'est-à-dire que j'ai accumulé du temps creux, du temps vide. J'étais un garçon assez sage et derrière une vitre, et je regardais passer les passants. J'acceptais qu'il ne se passe rien. Ça, c'est l'expérience peut-être de fond. Vous voyez, ouais. Pendant très longtemps. Et je pouvais rester allongé avec le regard sur le plafond d'une chambre ou être derrière une vitre et regarder la pluie, regarder, attendre sans attendre. C'est une drôle d'activité. Et je vous jure qu'elle est prenante. Attendre sans attendre. Et je pense... Là, vous m'aidez à penser que peut-être toutes ces années, j'ai fait comme un grenier, comme une provision de silence, d'attente presque désabusée au fond, d'attente non aveuglée par des espérances, une attente creuse, presque l'état d'un enfant abandonné, presque.
Les retombées du marteau-pilon du Creusot et les battements au ralenti du cœur de ma mère, martelant semblablement les plaques chauffées à blanc de l'invisible, rythmaient mes nuits, mes jours, mes pas, l'enfermement de la grand-mère maternelle, titubant d'un hôpital psychiatrique à l'autre, comme un gaz anesthésiait la famille. Captif d'un sort, j'ai grandi dans le noir, de loin réveillé par le miracle d'un rayon de soleil passant par la fente d'un volet de fer. Mon enfermement n'était pas voulu, mais subi. Je n'ai jamais vu le paradis qu'adossé à l'enfer, en contrepoint, contre-champ. Toute lumière, de parole, de visage ou de matière, m'est événement. Un accident qui à chaque fois me sauve.
Et puis ses parents ont été constamment employés chez Schneider. C'était une entreprise, on va dire, très paternaliste. Hein. Et lui, c'est le petit dernier d'une famille catholique, sinistré dans les bombardements en 1943. Et réinstallé par l'État dans une maisonnette dite de réfugiés. C'est quand même un milieu très modeste, c'est des gens qui ont vécu comme des réfugiés finalement, après la guerre, et au milieu d'une population très, très pauvre. La vie de Bobin est venue dans le désastre.
Donc on peut dire qu'il y avait beaucoup de paramètres effrayants. La mer était effrayante, l'école était effrayante, l'usine était effrayante. Pour le brin d'herbe, il y a beaucoup de choses qui sont effrayantes. Si vous êtes une petite fleur minuscule, pour une pâquerette, il y a beaucoup de choses qui sont effrayantes. C'est très joli, mais bon, la vache, elle vient, elle vous arrache la tête. Donc, c'est un peu ce sentiment-là qu'il a toujours gardé. Du coup, il a son écriture, c'est comme un mur de protection. Et du coup, il est entré avec sa sensibilité dans les choses que les gens ne vont que parcourir du regard. Lui, il les a vraiment vues, il les a vraiment soupesées pour s'en sortir.
Dans l'enfance, lorsque je marchais avec mes parents dans les rues du Creusot, je découvrais que cette ville lourde avait la même structure qu'un flocon de neige. Des avenues désertes tracées à la règle, des places venteuses, et jaillissant d'étroits couloirs, rôdant dans les jardins dérobés, le bleu de roi d'un ciel brûlant.
Le père n'élève jamais la voix. Il est très calme. Il travaille de ses mains, il lui parle. Plus tard, sa mère lui a rappelé à Christian qu'il était toujours fourré avec lui. Dès qu'il était à la maison, hop, il y a un petit atelier dans le coin de la cour, là, il était toujours avec lui, avec l'homme à mille bras, comme il l'appelle. Et certainement que ça devait le calmer beaucoup. La figure du père, ça a été son repère, quoi, sans jeu de mots. Hein,
c'est un homme splendide, c'est un homme comme un arbre. Il faudra en parler comme un arbre, je vais en parler comme d'un arbre. J'ai été tout petit oiseau sur cet arbre immense qui était mon père. Et je l'ai vu en proie à la cognée du bûcheron, c'est-à-dire frappé par la cognée de la maladie, d'une des pires maladies qui soit, puisque c'est une maladie, c'est cette maladie qu'on appelle de ce nom barbare et un peu effrayant d'Alzheimer. Donc, sa mémoire, et non pas son esprit, parce que je distingue radicalement les deux choses, sa mémoire a connu une hémorragie de plus en plus grande. Mais il y a une année où il a rejoint cette humanité perdue qui se trouve dans les maisons de retraite et plus particulièrement dans les maisons dites de long séjour. J'ai vu ça et j'en suis encore aujourd'hui où je vous parle comme irradié. Mais irradié, et je pourrais dire, je vais le dire, émerveillé.
Ce qu'il a vu dans son père qui est atteint de cette maladie, c'est qu'il retrouvait un regard d'enfant. Il regardait les choses comme si c'était la première fois. Il décrit son père regardant une fleur qui est tombée sur la table. Et il voit ce regard, il dit, c'est un regard inouï, c'est un regard de nourrisson en fait. Il voit son père retomber en enfance, et lui, c'est ce qu'il veut dans son écriture. Il veut retomber en enfance, c'est pour ça qu'il n'hésite pas, qu'il se risque même à des choses qui sont un peu roses et bleues, qui sont mal vues, qui sont interprétées comme des niaiseries. Mais il vise ce regard innocent qui n'a aucune intention. Un regard sans intention, sans projet, il n'y a rien derrière. Ce n'est rien qu'un regard qui découvre le monde. C'est juste l'âme. À ce moment-là, l'âme est visible.
Père, je garde en héritage ton visage baigné par les ondes. Je peux le donner sans le perdre.
Et c'était extrêmement touchant de voir cet homme qui adorait son fils. Il avait dit un jour en rentrant chez lui, à sa mère, mais presque à mi-voix comme ça, « Je crois que notre fils est poète. » Et après, quand il a compris ça, il a fait deux choses. Il reliait les textes, les premiers textes de Christian, sont reliés par le père, avec des coins en fer, avec tout un travail. Et Christian, évidemment, il en était très très touché. Et puis un jour, il lui a offert La saison en enfer. Et pour un homme qui n'était pas cultivé, mais vous voyez que ce que la sensibilité, ça remplace parfois avantageusement la culture. Ça a beaucoup touché Christian, donc ça l'a conforté dans son désir, dans son, Parce que pour ça, sa mère lui disait, tu ne réussiras jamais, de toute façon, tu écris, mais ça ne sert strictement à rien. Elle voulait qu'il passe des concours pour travailler dans un notariat ou je sais plus où, enfin des choses comme ça. Et c'est le père qui a vu quelque chose, qui l'a encouragé. Et ça, Christian, il avait une dette énorme avec ça.
Ça me fait très plaisir ce que vous dites, qu'il y ait une trace de philosophie dans mes écrits. Au fond, moi j'ai été aussi surpris que vous d'apprendre que je faisais des études de philosophie. Je les ai faites au départ, sans doute pour retarder l'instant d'entrer dans cette vie de travail, de trafic. J'ai passé quelques années donc en faculté de philosophie. J'ai lu consciencieusement les livres qui m'étaient proposés, qui étaient au programme, mais je les ai lus comme dans un sommeil. Je n'ai rien trouvé dans cette sorte d'intelligence-là. Rien. Absolument rien. Oui, Spinoza, par exemple, il y a ce livre, ce chef-d'œuvre de Spinoza qui s'appelle L'Éthique. Il se termine par une phrase très belle, par une pensée très pure, qui dit « Plus on connaît les choses simples, plus on connaît les petites choses et plus on connaît Dieu. » C'est admirable comme pensée et comme phrase. Simplement, ce qui m'étonne, c'est qu'il faille passer par 200-300 pages de construction intellectuelle, abstraite, qui ne manque pas de charme d'ailleurs, pour arriver à ce qui pour moi est de l'ordre de l'évidence, pour arriver au fond à ce que tout le monde sait, ce que tout le monde sent du moins, que les choses les plus infimes sont celles qui peuvent nous apporter le plus, et qu'il n'y a peut-être rien hors de ces choses infimes.
Il y a eu pour professeur, un philosophe spécialiste de Pascal, qui s'appelle Pierre Magnard, qui est un personnage qui a travaillé aussi sur l'inclusion de l'irrationnel dans la pensée. Et ça a été précieux pour lui. Je pense que la thèse de Christian était sur Pascal. Et Pierre Magnard avait une intuition extraordinaire à propos d'un fragment de Pascal qui explique pourquoi les pensées sont restées en morceaux. Il n'avait jamais eu l'intention de faire un livre continu, mais de faire un livre de fragments où les choses pourraient s'intervertir. N'importe quel fragment avec n'importe quel autre pour faire un nouveau sens. Chez Christian, dans Souveraineté du vide, par exemple, on a un texte continu qui est une illusion parce que, en fait, au bout, on n'a pas une solution, on n'a pas une conclusion. Il ne peut pas y en avoir. C'est un texte qui parle du vide, de l'infini. Donc, il n'y a pas de fin à un livre. Un livre n'est jamais fermé. Donc, même ces textes-là, qui ont un aspect continu, sont des fragments. Et par la suite, à partir d'Autoportrait au radiateur, ça devient franchement fragmentaire, avec des blancs entre chaque paragraphe. Mais là, il y a quelque chose qui change dans la forme. Mais le fond est le même, c'est la pensée errante. La pensée qui voit est une pensée errante. Il est à la merci de ce qui est sur le papier, est à la merci de ce qui va passer devant la fenêtre. C'est quand même de la pensée. Christian Bobin est un penseur, c'est un penseur qui voit.
Dans La lumière du monde, Christian Bobin écrit, je lis ce passage.
Mohamed Taleb.
Je suis toujours hostile au dogme de la théologie comme au système philosophique. Vouloir expliquer le monde, c'est comme vouloir faire entrer des roses dans un vase à coups de marteau. Quand on veut expliquer, notre pensée se rigidifie immédiatement à notre insu. Pour ma part, je n'aime pas qu'on m'explique. En latin, on connaît tous ce préfixe « ex ». C'est la mise à distance, c'est le fait de sortir, c'est le fait de séparer. On peut dire d'une certaine manière que la philosophie de Christian Bobin, c'est une philosophie de l'immanence et non pas de la transcendance. C'est une philosophie de l'ici et maintenant, D'ailleurs, il a consacré énormément de livres et de textes en faisant l'éloge de la présence. L'immanence, c'est la présence. Donc ce qu'il dénonce, c'est lorsque la philosophie veut expliquer le monde. La vision de Christian Bobin n'est pas confinée aux affects. Il y a une dimension affective qui, d'ailleurs, a intéressé des milliers de lecteurs. Il y a une dimension d'émotion, donc il y a quelque chose qui remue dans l'âme. Mais il y a aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est une pensée vivante. Et effectivement, on peut rapprocher cela de la philosophie. Si on pense la philosophie un petit peu comme Pierre Hadot, qui disait que dans les anciennes époques, la philosophie, c'est d'abord un mode de vie. Avec Christian Bobin, on a toute une sensibilité sociale, et moi je dirais même politique au sens le plus noble du terme, à partir de la poésie, à partir de l'expérience humaine du monde, à partir du moment où on assume la condition humaine, à partir du moment où la conscience est poétique, sensible, bienveillante, on ne peut faire que la critique du capitalisme, du système des banques, de cette civilisation qui produit l'homo economicus.
Il faudra bien qu'un jour, les puissants payent pour ce qu'ils font aux faibles. Une vengeance? Non, surtout pas de vengeance. Plutôt la joie convalescente d'une vie où plus personne ne sera considéré en fonction de sa place dans la société. Et comme les puissants ne lâcheront rien, il faudra le leur prendre. Leur prendre quoi? Leur argent? Non. L'argent signe leur maladie. Il faudra leur arracher ce dont ils sont le plus avares. Un regard délivré de tout mépris.
Oui, il y a quelque chose qui n'est pas franchement politique chez lui, il n'est jamais rentré là-dedans. Mais par contre, ce qu'on fait aux gens, ça, il est très sensible. Ce que ce système fait aux gens, il le dit crûment, d'ailleurs très crûment, dans le livre qui a été le plus mal reçu, je crois, c'est le Muguet Rouge. Et c'est pas un hasard s'il était mal reçu, parce que là, le progrès est nommé comme l'ennemi. Cette idéologie du progrès, l'hypertechnologie, le monde virtuel, plus rien n'est vécu concrètement.
Il y a une sainteté noire de la technologie, une volonté de rendre possible l'impossible. Malheur à qui voit venir à lui la forme de ses rêves.
Et son écriture, c'est un combat contre ce monde. Il y a une page de l'autoportrait au radiateur. Il est en train de lire Bernanos. Et là, il se met en colère. Et il a un mot qui est impossible chez Christian Bobin, parce que c'est quelqu'un qui ne disait jamais d'injure. Et un gros mot, c'est jamais. Et il dit, il n'y a qu'un mot pour qualifier ces gens qui font ça. Et ce sont des salauds.
Comme mes frères les moineaux, je travaille paisiblement à l'effondrement des banques et des maisons de retraite.
La grande ouverture des grandes portes a été donnée il y a plus de 30 ans par une jeune femme qui n'est plus de ce monde. Imaginez quelqu'un qui vous vient vers vous avec confiance et avec une sorte de joie. Voilà. Les enfants savent faire ça. Les enfants, ils viennent vers nous comme ça. Et imaginez que ce soit un adulte qui vient vers vous, parce que c'est possible après tout. Son visage a balayé tout. Je l'ai rencontré en 1980 à peu près, et puis elle est morte en 95. J'avais à peine écrit avant de la rencontrer, à peine écrit. Et tout d'un coup, son visage a fait comme une plaque chauffée à blanc sur laquelle toutes les gouttes d'encre se sont venues danser comme ça.
Ghislaine, c'est la muse du troubadour de l'amour éternel. Et puis c'est cette femme qui est célébré, c'est vrai, dans les premières œuvres. C'est vraiment la lumière, c'est comme Dante avec Béatrice, c'est pareil. C'est celle qui va lui faire découvrir le sourire, l'amour, la beauté, la confiance, l'enfance. Alors, il y a aussi la fille qui s'appelle Hélène, qui veut dire soleil d'ailleurs. C'est aussi un terme assez rare dans la littérature moderne, enfin contemporaine en tout cas, c'est l'enfance. Parce que c'est quand même un enfant. Il a une célébration de l'enfance qui est systématique. Et cette petite fille, il célèbre sans arrêt la fraîcheur de l'enfance, le sourire de l'enfance. Et pour lui, c'est la poésie première. C'est l'enfant qui est le poète. Chez les écrivains, il y a peu d'œuvres où on retrouve une connivence comme ça entre la maturité et l'enfance. Je pense que elle, la petite fille en question, a révélé le cœur d'enfant qui l'habite.
Vous dites que l'enfant a connaissance de tout sauf de lui-même.
Je pense que c'est la seule chose qui nous reste à retrouver ensuite. C'est presque rien, c'est-à-dire qu'il nous faut retrouver cet état originel de l'enfance, cette simplicité, cette extrême simplicité qui fait que l'on ne cherche pas à se protéger, qui fait qu'on est exposé à tout. Je crois que la vraie force, c'est cet état de faiblesse. Et je crois que cet état de faiblesse, c'est l'état d'enfance. Simplement, ce qui manquerait, mais je ne sais pas si c'est un manque, ce qui manquerait à l'enfance, ce serait la conscience de cette chose. Je crois qu'un enfant est traversé par tout ce qui lui arrive.
Quand la connaissance est venue, est-ce qu'après il n'est pas très difficile de retrouver cet état-là ?
Oui. Oui, parce que la conscience, je crois, c'est quelque chose de très mortifère, qui fige.
En fait, Christian Bobin, quand il était avec cette femme, elle avait des enfants. Et lui, son moteur, c'était toujours de faire plaisir. Il y avait toujours ça. Il y avait les enfants. Donc petit à petit, il s'est mis à écrire aussi pour les enfants. Pour les tout-petits, comme Le jour où Franklin avala le soleil, qui est un chef-d'œuvre. Et puis ensuite, des livres un peu comme pour des adolescents. C'était pas du tout quelqu'un qui avait un plan de carrière. Maintenant, j'ai fait ça, j'ai fait le très bas, alors maintenant, je vais attaquer comme ça, ou je vais faire ceci, pas du tout. Il s'est mis à écrire pour les jeunes, donc La Folle Allure, enfin d'autres livres. C'était une histoire d'une jeune fille qui partait dans un cirque. Ça a eu beaucoup de succès parce que beaucoup de jeunes, 13-14 ans, ont beaucoup aimé ce livre. Et donc, ça venait casser l'image du grand poète. Évidemment, les grands critiques se sont précipités pour dire « Regardez comment il écrit maintenant, c'est des livres faciles, enfin. » Et évidemment, il aurait pu prendre le choix de mettre, par exemple, chez le même éditeur, section jeunesse ou quelque chose comme ça. On n'aurait pas pu l'attaquer, mais il n'y a pas pensé. Donc c'est parti comme ça, et après, évidemment, c'était facile de dire que, par rapport au Baiser de marbre noir, La Folle Allure, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est pas quelqu'un qui calculait son image. Pas du tout. Ghislaine et ses enfants, ça a fait entrer du soleil dans sa vie. La mort de Ghislaine, c'était forcément un moment de désarroi total. Et comme son médicament, si je peux dire, son aide, ce que lui appelait le premier secours, c'était pour lui l'écriture. Donc il a tout de suite essayé à écrire.
Vous voyez un immeuble qui s'effondre, on voit des barres d'immeubles qu'on fait sauter parfois. Eh bien, c'est dans cette colonne de poussière de la mort, de l'effondrement d'un corps et d'un nom, et de l'extinction d'une voix, c'est dans la proximité même de cet effondrement que j'ai écrit La Plus Que Vive. J'ai vu la reine s'effondrer, même sa robe tombait en poussière, et tout ça en quelques secondes. Et j'ai voulu, comme par conjuration, lui donner la plus belle couronne possible. Et La Plus Que Vive, c'est juste une couronne sertie de diamants qui clignotent de tous les côtés. Une couronne un petit peu affolée pour une reine qui déjà n'était plus là au moment où j'écrivais.
Aide-moi à écrire, aide-moi à chanter. Les morts sont là pour le secours des vivants.
Mais c'est peut-être un livre qui a été écrit, je pense que ça a été écrit trop tôt. Il n'y avait pas assez de distance, il l'a écrit pour se libérer d'une peine immense, et c'était trop tôt. Pour moi, les deux premiers chapitres de La Plus Que Vive disent tout. Bien sûr que des gens qui ont perdu des proches comme ça se sont reconnus dans ce livre. C'est une écriture qui répare, qui veut faire du bien, en fait, à ses lecteurs. Mais oui, c'est jamais l'auteur, quoi. C'est ce que dit l'auteur au lecteur qui est important. Et il dit même, dans Noir clair, il faut tuer Christian Bobin. Le moi n'a pas lieu d'être, quoi, oui, oui, quand on écrit.
Vous savez, j'ai trouvé un petit procédé pour voir quand un texte est parvenu à maturité. C'est quand, à mon sens, il n'y a plus rien de moi, quand il n'y a plus aucune préférence particulière, personnelle, qui rejetterait le lecteur hors du livre. Quand je n'y suis plus pour personne, le livre existe, et le texte est fait, et peut-être donné. Ce qui est mauvais dans mes livres, s'il y a quelque chose de mauvais, et pourquoi pas, à certains endroits, c'est de moi. Je le signe. Ça vient d'une présence trop lourde tout d'un coup, vers la table d'écriture. Ce qui est bon, s'il y a quelque chose de bon, c'est pas de moi. C'est donné. Je sais pas qui c'est pourquoi l'attribuer d'ailleurs. En tout cas, c'est ça le livre. C'est ce qui n'est pas de moi. C'est ce qui va ailleurs, et c'est ce qu'on prend.
Ces étourneaux jaillissant de nulle part par grappes tournoyantes, vibrant dans l'air mauve comme sur les ondes d'une eau mystique, explosant par centaines à la surface de mes yeux, piaillant, saluant la nuit qui vient.
Il écrivait vite, oui. Il écrivait vite. Tous les jours. Plusieurs heures par jour. Beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. C'était comme un stylo enchanté, comme ça, qui avancerait à toute vitesse, à toute vitesse. Il y avait une urgence à écrire. Si on veut trouver une image, peut-être la plus juste, c'est comme l'oiseau, il chante. Il chante pas tout le temps, mais il chante très souvent dans la journée. On ne sait pas pourquoi, à tel moment ou pas. C'était quelque chose de cet ordre-là, quelque chose comme qui sortait de lui comme ça, d'une façon tout à fait naturelle. Rien d'intellectuel. Vous connaissez le peintre Kate Kollwitz? Elle a fait plusieurs d'ailleurs dessins comme ça, d'une mort, la mort avec une faux. C'est terrifiant. La lame est noire comme ça, et la tête de la faucheuse est absolument épouvantable. C'est-à-dire que vous inversez la chose et vous avez Christian. Elle fait cette image terrible de la faux en train de faucher des enfants, par exemple. C'est presque insoutenable à voir. Et Christian Bobin va dire « La mort est d'une petite fille qui cueille des fleurs. » C'est humain, les deux sont humains au plus haut. Lui, c'est « La mort est d'une petite fille qui cueille des fleurs. » La phrase a l'air toute simple, mais tout à coup, ça arrête le cœur, ça arrête l'angoisse. Et on peut rire, mais ça arrête l'angoisse. Et c'est pour ça que Christian Bobin est un grand humaniste, en fait. Et à tel point c'est ancré chez lui que quand il était à l'hôpital, à la fin de ses jours, il a écrit un livre pour empêcher l'angoisse du lecteur, le murmure. Il a écrit ce livre, il savait bien qu'il y a des gens qui l'aimaient. Au moment où lui mourait, il essayait d'aider les autres qui restaient en vie. C'est pour ça que ce livre-là, il est extraordinaire. Vous pouvez le donner à un mourant, il va y avoir un effet quelque part, même si la personne ne veut pas dire qu'il va sauver les gens comme ça, mais il va y avoir un effet bénéfique, très très grand. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'essayer d'aider l'autre dans une vie où quand même il y a beaucoup de choses épouvantables.
Assis en silence dans ma petite chambre d'hôpital, je m'attends moi-même. Le souffle de l'arbre devant ma fenêtre me lave de mes ténèbres. L'innocence est hors de nous, devant nous. Fleurs, arbres et même pierres payent par amour le prix le plus cher, nous innocentes, et ne demandent rien en retour. Un regard d'une seconde sur eux embrase jusqu'au fond de l'univers et nous délivre de notre dette.
Il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de douleur, une bête aux aguets. Il y a quelque chose en nous, dans notre cerveau, notre cœur, je ne sais pas, dans la totalité de notre être. Et écrire, pour ce qui me concerne, c'est écrire dans la crainte de ce bon et dans le temps qu'il nous a laissé avant que le bon se fasse. C'est aller un tout petit peu plus vite qu'une douleur qui tout d'un coup, ou d'un chagrin, ou d'un manque qui tout d'un coup va vous rendre muet. C'est pas s'enfuir, parce que la bête, étrangement, cette bête sauvage, c'est une bête en même temps de compagnie. Donc vous ne pouvez pas fuir, comme la douleur.
Il connaît des crises de désespoir, vraiment des abîmes. Et il dit que toute sa parole surgit du plus noir. Et l'œuvre de Soulage, c'est une œuvre sur la lumière, mais avec un noir, mais plus noir, c'est impossible, quoi. C'est du noir noir. Donc c'est normal qu'il se soit reconnu dans cette œuvre, quoi. Et avec une lumière très délicate sur ses, qui est accrochée par des traces de peigne. D'une minute à l'autre, comme ça, il pouvait plonger au plus profond. Ah oui, ça l'a sauvé. Oui, ça, l'écriture, oui. Parce qu'il répare ses lecteurs, mais il se répare aussi lui-même. Disons que, oui, c'est pas lui qui compte dans ses textes, mais ses textes recolle un peu les morceaux pour qu'il, et après bon, c'est un peu comme s'il transmettait la médecine à ses lecteurs. Tout ça, ça répare.
Une longue épée de silence s'enfonçait parfois dans mon cœur et je ne pouvais l'enlever sans aussitôt provoquer une hémorragie. Je choisissais donc de me taire et d'écrire ce genre de phrases gouvernées par le blanc. Chacune m'était délivrante au temps où elle venait. Je n'ai jamais écrit que pour résoudre une crise, traverser une forêt, rejoindre le temps limpide dessous le temps obscur. Je n'ai jamais écrit que pour vous et pour moi, pour un vous et un moi à venir, non encore apparu, en ce monde où il n'y a jamais eu personne.
C'est sa technique d'écriture, finalement, qui l'a sauvé, qui l'a tiré de là. Il aurait pu rester bloqué au milieu du gué, et le fait de s'asseoir à une table, il s'est assis à une table, devant une fenêtre toujours. Ça, c'est très important, la table d'écriture est toujours face à une fenêtre. Voir un nuage c'est, je veux dire, c'est le symbole, avec la neige, c'est le symbole de Christian Bobin. Voir un nuage, voir des oiseaux, des animaux, des arbres. Donc recevoir de l'extérieur, voilà. Il n'attend rien de lui quand il écrit. Il attend tout de l'extérieur, tout lui vient. Voilà. Il dit, il voit. Il ne pense pas, il voit. Et cette vue devient une pensée sur la feuille. Et il m'a écrit un jour une très belle expression, il m'a dit, je cherche le suspens de l'air au moment du premier flocon de neige. C'est ça qu'il cherche, voilà. Voir ça. Que personne ne remarque dans la vie. Et c'est là que le Creusot est très beau, parce qu'au Creusot, il neige pratiquement chaque année. Mais le monde, on ne le voit plus. La terre habitait le monde. On n'habite plus le monde. Aujourd'hui, on habite des abstractions, des institutions.
Qu'est-ce qui peut bien déranger pour que les gens prennent la peine de tremper leurs plumes critiques dans pas mal de fiel quand même? Pourquoi est-ce que je mérite autant de colère de la part des autres? Vous y pensez ou vous n'y pensez pas du tout et vous travaillez, puis un point c'est tout?
J'y ai pensé et je me suis un petit peu étonné. À mon sens, ça coïncide avec un livre précis qui s'appelait Le Trébat et dont le sujet est, c'est une sorte d'icône autour de François d'Assise. Et c'est à partir de là qu'à la fois le succès est venu et puis ses paroles parfois très hargneuses ou combatives, disons.
Blessantes,
combatives.
Oui.
Et moi, il me semble que cela tient, je me dis, c'est pas possible que ce n'ait pas été aimanté par le sujet du livre.
Et Saint-François, voilà, c'est le retour au réel, on pourrait dire, oui. Et il y a à la fin, d'ailleurs, l'un des derniers chapitres du Trébat, qui est un dithyrambe aussi contre le monde moderne, contre la modernité. Donc toute la critique qui a souci de la modernité a tapé sur le livre. Livre aussi très mal reçu. Et gros succès. Ce qui les a bien fait enrager.
C'est assez malicieux, oui. Oui.
Saint François d'Assise, c'est quelqu'un qui a été vers le monde, vers les choses, vers les animaux, vers tout ce que l'Église négligeait, l'Église officielle. Il y a dans l'Église chrétienne, il y a toujours une tentation gnostique, une pensée de la gnose, l'homme n'est pas vraiment de ce monde. Il vient d'ailleurs, on est là, mais on n'a pas grand-chose à y faire, vivement qu'on en parte. Et saint François d'Assise arrive, et lui, il se met à parler aux oiseaux, aux loups, il parle du frère soleil, les arbres, tout le monde compte. Tout à coup, la création est à nouveau là. On doit prendre soin du monde. Le rapport de Christian Bobin, quand il condamne le monde, il s'agit du monde tel qu'on nous le fait, tel que la politique le fait. Il y a deux mondes, il y a ce monde-là qui est le monde factice, le monde politique, et puis le monde merveilleux, la création. Et saint François, voilà, c'est le retour au réel, on pourrait dire. Oui. Voilà, il existe un monde, il existe une création.
Il y a quelque chose dans le monde qui résiste au monde, et cette chose ne se trouve ni dans les églises, ni dans les cultures, ni dans la pensée que les hommes ont d'eux-mêmes, dans la croyance mortifère qu'ils ont d'eux-mêmes en tant qu'êtres sérieux, adultes, raisonnables. Et cette chose n'est pas une chose, mais Dieu. Et Dieu ne peut tenir dans rien sans aussitôt l'ébranler, le mettre bas. Et Dieu immense ne sait tenir que dans les ritournelles d'enfance, dans le sang perdu des pauvres ou dans la voix des simples. Et tous ceux-là tiennent Dieu au creux de leurs mains ouvertes. Un moineau trempé comme du pain par la pluie. Un moineau transi, criard, un Dieu piailleur qui vient manger dans leurs mains nues. Dieu, c'est ce que savent les enfants, pas les adultes. Un adulte n'a pas de temps à perdre à nourrir les moineaux.
Faut dire les drames du monde. Principe de réalité, mais on peut le dire en ouvrant un principe d'espérance. On peut peut-être relier cette espérance de Christian Bobin à une métaphore que certains savants utilisent, une métaphore quasi philosophique, c'est la métaphore de l'effet papillon. Et pour moi, on est au cœur de la poétique sociale de Christian Bobin. L'effet papillon, c'est quoi ? L'idée, l'expérience que le geste le plus petit, quantitativement, que ce soit un geste pédagogique, celui d'un enseignant, un geste médical, un geste artistique, un geste agricole, le geste le plus petit, dans certaines conditions, il peut transformer le monde. Et il est vrai que dans la philosophie, dans la poétique sociale de Christian Bobin, il y a ce pari que le plus petit peut transformer le monde. On a dit que c'était de la mièvrerie, on a pu parler de sensiblerie, une sorte de critique littéraire un petit peu pédante et académique. En fait, c'est tout simplement que Christian Bobin, c'est pas les mots qu'il utilisera, mais c'est les mots que j'utilise, il est au diapason avec les nouveaux paradigmes scientifiques. Il est en cohérence avec le meilleur de la pensée scientifique, qui nous dit que le plus petit, dans certaines conditions, peut transformer le monde. Lorsqu'il écrit le très bas, alors que dans la théologie classique, on parle de Dieu comme étant le très haut, lorsqu'il nous parle du très bas, ben il est en train de nous dire quoi ? Il est en train de nous dire que c'est justement dans la vulnérabilité, c'est dans la précarité, c'est dans le rien, c'est dans la vacuité, c'est dans l'absence, c'est dans cette souveraineté du vide que précisément on peut créer les conditions de la révolution, de la transformation sociale, du changement dans le monde.
Ils ont fait de toi une image, ils ont fait de toi une idole, ils ont fait de toi une église. Moi, je fais de toi un coquelicot. L'étendard minuscule de l'éternel.
Dieu est juste un mot. C'est une personne, bien sûr. Mais c'est... Dieu, c'est pas un nom. Le nom de Dieu, personne ne le connaît. Il en a mille, il n'en a aucun. C'est certainement pas le Dieu de l'Inquisition ou de la Sorbonne du Moyen-Âge, ni même de l'Église. Mais il ne veut pas rentrer dans l'institution. Si vous rentrez dans l'institution, vous allez rentrer dans le rituel, mais on ne peut pas se satisfaire d'une institution qui n'a pratiquement plus rien à voir avec son origine. Le rituel a pris trop de poids, la morale aussi. Le discours de l'Église et l'Évangile, c'était deux. Alors d'un côté, l'Église transmet très fidèlement l'Évangile, mais de l'autre, ce qu'elle en fait dans l'application, ça coince, ça ne va pas du tout. Donc, mettre une étiquette de chrétien sur Christian Bobin, c'est pas évident. C'est quelqu'un qui est plus évangélique que chrétien.
Jalal al-Din Rumi, le grand maître de la mystique soufie du XIIIe siècle, est peut-être pour moi le poète des poètes, parce qu'on le lit sans penser une seconde à la poésie. Il est plus attirant pour moi que la plus belle des filles. Le savoir est plongé dans le cœur de Rumi, ce qui fait que son cœur devient une toupie. Ses poèmes sont comme les gouttes d'eau qui jaillissent de la salade qu'on essore. La salade est en son cœur. Il y a à la fois un chaos, un souffle comme celui d'une bombe, une grande destruction de tout, un éparpillement énorme et une unité absolue.
Lorsqu'il lit Rumi, ou lorsqu'il lit les poètes moines japonais, il est dans l'âme du monde. Et c'est quand même troublant de savoir que le thème de l'anima mundi, l'âme du monde, a été expulsé au XVIIe siècle du champ de la théologie, de la philosophie, de l'art et de la science, quand la modernité capitaliste a pris son essor. C'est tout simplement la nouvelle croyance, le monde n'a pas d'âme, le monde n'a pas de profondeur, parce que le monde est une machine. Et moi, il me semble que si Christian Bobin va à la rencontre de l'Orient, du Sud, du Nord, du plus lointain jusqu'au plus récent, s'il va être un explorateur de l'âme du monde, c'est aussi un acte de résistance contre la pensée mécaniste qui s'est imposée au XVIIe siècle dans cet assassinat de l'âme du monde. Explorateur de l'âme du monde, il a pu ainsi entrer en dialogue avec l'islam, avec le bouddhisme, avec le taoïsme, avec les chamanismes du monde entier. Et il est vrai que dans ces dialogues inter- et transculturels, on a quelque chose qui me semble important, c'est qu'on a une philosophie tout à fait particulière chez Christian Bobin, c'est ce souci de la terre que nous habitons. La plupart de ces poètes d'Orient honoraient la nature vivante. C'est ce qui montre aussi l'actualité de la pensée philosophique de Christian Bobin. Est-ce que nous sommes capables de nouer avec l'environnement un autre rapport que le rapport prosaïque, rationnel, utilitaire, qui est le rapport marchand dominant? Est-ce qu'on est capable de nouer une parenté sensible avec les éléments, et dans le cas précis de Christian Bobin, avec le végétal, parce qu'il avait une passion singulière pour le monde des fleurs et des plantes? Est-ce qu'on est capable de réenchanter notre relation au vivant, même si on l'oublie aujourd'hui? Et c'est parce qu'on l'oublie que Christian Bobin est éminemment important.
Je suis stupidement épris des fleurs, mais de plus en plus. C'est marrant parce que des fois, j'aurais aimé être un oriental. J'aurais aimé ça, parce que je vois dans la parole et dans la fougue orientale, je sais qu'ils ont des choses que l'Occident, un peu assis, ne trouve pas, ne voit pas. Ils parlent beaucoup aussi des fleurs, les orientaux. Ils parlent de la beauté toute païenne de Dieu. Les fleurs, ce sont des propositions faites au néant. Ce sont des paroles qui éclairent le néant. Une fleur est une réponse à quelque chose du néant et des ténèbres. Et la réponse est parfaite. La réponse éteint le feu de la question. elles ont leur tête tournée vers nous. Elles sont au maximum tournées vers nous, au maximum.
Dans le murmure, donc, il parle de Lydie, il dit ceci qui est très beau. Il dit
Claire Thiévent.
Avant, ça veut dire avant de la rencontrer. Avant, j'étais un mimosa qui ignorait sa couleur jaune. J'écrivais sans aucun souci de plaire. Puis le monde m'a tendu un miroir et je me suis mirée dedans. J'ai voulu faire ce qu'on attendait de moi. Alors tu es venue et tu as brisé ce miroir. Tu m'as rendue au secret du langage. Je suis redevenue l'inconnue que j'étais pour moi-même autrefois. Malgré l'hôpital, il y a une joie qui est là et qui repose sur le fait que tu m'as réellement vue. C'est donc adressé à Lydie Dattas, à sa femme. Il y a eu une période, et cette période, je pense qu'elle est, elle s'étend entre le très bas et tout le monde est occupé. C'est entre les années 90 et 99. Après ça, c'est sûr que sa rencontre avec Lydie, ça a changé beaucoup de choses. Parce que justement, il est sorti de cette période où il a écrit des romans, mais où il y avait des très belles choses. Hein. Mais ces romans, ça s'est éloigné un peu de cette écriture fragmentaire où il y a vraiment quelque chose de tellement puissant. Et en fait, sa rencontre avec Lydie, ça l'a remis dans sa densité profonde. Elle l'a beaucoup interrogé. Ils ont créé un livre, ça a abouti à un livre d'échange, de... Et là, ça a été le début d'une espèce de reconstruction. Il n'était pas bien. Christian était probablement... Il ne m'a pas dit qu'il n'était pas bien, mais c'est ses écrits qui le font ressentir. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il y a eu Ressuscité. Et d'un seul coup, il est reparti dans cette espèce de veine incroyable, magnifique.
Viens, ma vénérante. J'ai les mains plus larges que la muraille du monde. Je les plonge dans tes cheveux. Le plus grand bonheur que j'ai connu depuis 50 ans, c'est ta joie devant ce que j'écris. C'est ta compréhension absolue de mon cœur et du monde. Nous ne descendrons pas l'escalier de tristesse. Plus vite que la vie et plus vite que la mort, je te retrouverai, toi. Nous tourbillonnerons dans la lumière. Le vol magique des étourneaux, second violon du ciel. Quand il rencontre un obstacle, comme d'un roc qui dépasse une rivière, il scinde en deux cette masse de grâce sans se heurter, vite recompose leur amitié après le franchissement de l'épreuve. Cette passe s'appelle le murmure. Quand tu mourras, notre amour se recomposera. Il se recomposera dans le ciel rouge, comme le murmure des étourneaux après le franchissement de l'obstacle.
C'est extraordinaire, enfin. Donc, il écrit le murmure à l'hôpital. Il finit, le texte finit sur l'apparition de ces cercles d'oiseaux et ces tourneaux qui descendent comme ça. Et ensuite, il meurt. Ensuite, il y a la cérémonie à l'église Saint-Charles, devant sa maison natale. Et au moment où le cercueil sort, la nuit tombe, commence à tomber avec un ciel rouge, et les étourneaux arrivent par milliers. Et pendant bien 20 minutes, des groupes, des tourneaux arrivent, etc. Ça aurait été dans une autre part du livre, ça aurait été déjà étonnant que ce soit... Mais là, c'est la dernière page. C'est quand même... J'en tire aucune conclusion. Hein. Mais je regarde comment parfois le ciel est poète.
Ils craignent la mort plus que tout, sans voir qu'il y a une chose plus redoutable encore. Une vie sans amour.
Dans la lumière du monde, il dit qu'il est persuadé qu'il va retrouver ce qu'il a perdu dans la mort. Donc elle ne finit rien, au contraire, c'est une sorte de boucle. Et là aussi, on n'est plus dans le discours continu, on est dans une boucle. Tous les fragments d'un livre désignent la même chose. Comme les pensées de Pascal désignent toujours la même chose. C'est pour ça qu'elles peuvent s'accorder entre elles n'importe comment. On peut prendre une ici, prendre une autre là et les mettre ensemble. C'est comme ça, il n'y a pas de continuité. C'est quelqu'un qui ne croit pas au temps. Il ne croit pas à l'histoire, Christian Bobin. Et encore moins à la fin de l'histoire. Il n'y a pas de fin. Il y a des choses qui reviennent. Et pour lui, on va retrouver. Voilà, on va tout retrouver.
Et du coup, Ça a été magnifique. Parce que partir à la dernière minute, faire une cérémonie dans une église, devant sa maison natale, et puis le cercueil monte dans une voiture et vous partez à l'autre bout de la France pour trouver la vie. Parce que, est-ce que Christian était fait, Christian Bobin, pour rester assis à côté du pilon du Creusot toute sa vie? Et donc, à un moment donné, votre vie, quand elle s'ouvre, au moment de s'ouvrir, pour ne plus jamais s'ouvrir après, vous voyez tout. Surtout qu'il avait un œil quand même vraiment de voyant. Et tout à coup, il a vu. Il a eu ce génie de vouloir partir d'un lieu où normalement il aurait dû être ankylosé par des décennies d'années, où il n'était pas parti, et où il avait été retenu par l'un, par l'autre, par la jambe, par le pied, par le bras. Le cimetière du Creusot, ça aurait été vraiment trop. Et tout à coup, avoir un geste aussi vivant à la fin de sa vie, c'est formidable. C'était tout à coup partir à Marciac, donc c'est le village de ma famille, et dans un village où il y a chaque année un grand festival de jazz avec énormément de jazz manouche, dont Christian Bobin raffolait. C'était la clé de sa geôle. La musique comme ça, manouche, à la guitare, c'était la clé de sa geôle.
C'est un peu comme s'il avait dit au Creusot, je vous ai aimé beaucoup, je vous aime toujours, mais vous avez eu ma vie, vous n'aurez pas ma mort. À ce moment-là, il tire sa révérence et il n'a pas voulu être le Rimbaud de Charleville. Être le Bobin du Creusot, non, c'est pas pour lui. Donc il s'en va à Marciac.
Ça y est, on est en route pour Marciac. Nos plus beaux jours sont devant nous. La brièveté est gage de salut. C'est en se quittant qu'on se dit tout. Je suis au bout du langage. La poésie n'est rien. L'écriture n'est rien. La musique n'est rien. Mais ce qui est rien ignore la mort. Les larmes et les sourires sans cause survivent à la fin du monde. On va vers des jours extraordinaires.
Christian Bobin, L'enfance au cœur. Avec Lydie Dattas, Claire Thiévent, Mohamed Taleb, Yves Leclerc et Gilles Gontier. Extrait des œuvres de Christian Bobin, Dans la lumière du monde, Le murmure, Prisonnier au berceau, Le muguet rouge, Le trébat, Éloge du rien, Le colporteur, L'éloignement du monde, Autoportrait au radiateur et Le Christ au coquelicot. Lecture, Sarah Chaumette. Prise de son, Hervé Dubreuil, Pierrick Charles et Marie le peintre. Mixage, Amandine Grévoz. Documentaliste, Annelise Signoret et Antoine Vuilloz. Archivina, Samia Jedi. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.